Bonjour, c'est Anne. J'hallucine, moi, en entendant l'émission d'aujourd'hui sur le purin d'ortie et les autres recettes phytosanitaires interdites. Moi, j'ai essayé de réanimer des gens à La Réunion lorsque je travaillais au SAMU, il y a une dizaine d'années, parce que souvent, ils étaient intoxiqués avec un produit qui était en vente libre, qui s'appelait le paraquat. Je ne sais pas si c'est en vente libre toujours aujourd'hui, qui était un produit de l'agriculture. Il suffisait que le pulvérisateur soit percé, que la personne ait quelques gouttes, ou disons qu'il y ait un écoulement contre le dos de cette personne, et l'intoxication était terrible, terrible. Ça a donné un coma profond, et de toute façon, quand on les réanimait, ils mouraient tous de fibrose pulmonaire 6 mois plus tard. Et ça, c'était un produit qui était en vente libre, couramment, dans tous les magasins, qui ne faisait l'objet d'aucune interdiction. Je ne sais pas si les choses ont été rattrapées depuis, mais quand j'entends que maintenant on va interdire des décoctions d'ortie que ma mère faisait quand j'étais petite en Bretagne, je me dis qu'on vit dans un monde dingue, dingue, dingue.
Waouh, je suis en train d'écouter l'émission sur le purin d'ortie. Je suis ravie que vous abordiez le sujet. J'ai beaucoup de mal à en rire, bien que vous nous aidiez à prendre un peu de distance, mais ça me rend folle de rage. C'est loin, j'ai vraiment la haine, et pourtant je suis une petite dame bien intégrée. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui a des actions en masse dans ces labos phytosanitaires, agroalimentaires, qui nous empoisonnent et qui nous font mourir. Oh là, ça me rend folle, folle, folle de rage. J'espère que quelque chose va se passer là-dessus. Merci, bon courage.
Salut Daniel, c'est Lionel de Grenoble. Eh ben, on est le vendredi 22, 15h, France Inter. On apprend que à Lima, dans le Rhône, il y a des échauffements dans l'usine Bayer. Échauffements de produits phytosanitaires qui concernent 17 tonnes, quelque chose dans ce genre. Et juste derrière, tu nous fais une émission sur l'interdiction du purin d'ortie et des produits phytosanitaires non agréés. Alors Daniel, soit tu suis très très bien l'actualité et tu es très très fort, soit c'est l'actualité qui te suit. Franchement, des fois, on se pose la question. Soyez fort et franchement, Bayer, c'est des champions. J'espère juste un truc, c'est que le purin d'ortie, à grosse quantité, n'a pas tendance à s'échauffer. Sinon, il va falloir y mettre beaucoup d'eau pour le refroidir, comme du côté de Lyon. Allez, salut.
C'est Richard, je suis apiculteur bio en Provence. Je viens d'écouter votre émission aujourd'hui là sur le purin d'ortie. Ça ne m'étonne pas. Je suis révolté, mais ça ne m'étonne pas. Car il y a vraiment une tentative de mainmise des lobbies des produits phytosanitaires, soi-disant la protection des plantes, et ils veulent faire même basse sur tout ce qui est bio. Nous, dans l'apiculture, on subit une atteinte à la biodiversité. Nos abeilles, on a de plus en plus de mal à les maintenir en bonne santé. On ressent les conséquences du changement climatique sur la mielée de lavande. Ça fait 4 ans depuis 2003 que nos récoltes sont diminuées, sont divisées par 4, voire cette année on a fait 10% de ce qu'on faisait il y a 5 ou 6 ans. Par rapport à 2000, par rapport à l'année 2000, on a fait 10% de ce qu'on avait fait à l'époque. Quand on sait en Provence ce que représente le miel de lavande. Donc on sent vraiment qu'il y a le réchauffement climatique. Les scientifiques disent, ils le disent, que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on veut bien dire aux antennes. Donc moi je confirme, on sent vraiment qu'il y a un gros problème. Les abeilles sont malades de toutes ces pollutions et d'une atteinte à la biodiversité. Et puis, pour sortir un peu de notre petit cadre de l'apiculture, je constate qu'il y a vraiment une tentative de mainmise par les OGM, par tous les moyens pour imposer la chimie, alors qu'on sait très bien maintenant que si on n'arrête pas toute cette pollution généralisée, notre monde ne va pas pouvoir survivre à nos enfants ou nos petits-enfants. Je sais pas où on va. Allez. Bonne journée à tous et puis on continue d'y croire.
Oui, salut. Je voulais dire à propos de ton émission sur les orties, vraiment, on n'y comprend plus rien. Allez, ciao.
Et vous savez quoi? J'ai une idée pour les administrations tatillonnes qui nous pondent des textes pour le bien de la communauté. Il devrait rendre illégal l'allaitement maternel parce que ça empêche Nestlé de vendre du lait en poudre. C'est quand même dramatique, ça, comme problème, non? Allez, salut!
Salut, je voulais vous remercier pour l'émission sur les courants d'ortie. Je me demande à quand l'homologation du fumier ou le droit d'auteur sur la flore intestinale. Quand est-ce qu'on interdira aux vaches de chier une balle à main pour chaque caca? Comment il s'appelle le responsable de cette loi absurde? On devrait vraiment lui faire une belle pub, hein, parce que c'est les gens comme ça qui me font honte d'appartenir à la race humaine. Bon, allez, salut, c'est Kate. Je suis en train de chercher un nouveau repère ici à Saint-Pantaléon-de-l'Arche.
Eh ben voilà, le Purin a fait un tabac, des quantités de messages, tous de la même tonalité à peu près, pour s'étonner, s'indigner, s'éberluer, rigoler de cette loi tendant à interdire le purin d'ortie, ainsi que d'autres produits. Bon, c'est vrai qu'il doit y exister quelque part le hit parade de la loi la plus con. Ça doit exister. Je suis sûr que en demandant à des députés ou à des sénateurs, ils doivent avoir une liste secrète qui tiennent entre eux et ils en rigolent à la buvette. C'est incroyable que ça ait pu se passer autrement, parce que sinon ce serait à pleurer. Nous, on part aujourd'hui. On part pour l'Afghanistan. 5 ans après, on y était, souvenez-vous, pour les fidèles de la base qui s'y suit, pour les AMG, on était en Afghanistan en 2001, en octobre 2001, lors de l'offensive de la coalition et juste avant la libération de Kaboul, ce qu'on avait appelé à l'époque la libération de Kaboul. 5 ans après, en 2006, où on est l'Afghanistan, on va revenir sur nos pas, on va essayer de retrouver ceux que nous avions rencontrés à cette époque, et on va essayer de voir qu'est devenu ce pays qui est, on le sait en partie, un narco-État sous le contrôle de la communauté internationale, de l'OTAN et des États-Unis. Voilà, on parle à l'instant même. Une précision, je me suis trompé, pan sur le bec, en annonçant les états généraux pour le pluralisme dans les médias, j'ai dit que ça se tenait samedi dernier, et ben c'est une erreur, ce sera samedi prochain, le 30 septembre, états généraux pour le pluralisme dans les médias, c'est à la Bourse du Travail de Saint-Denis, dans le 9-3, Bourse du Travail de Saint-Denis, de 9h30 à 19h, à l'appel d'associations, de syndicats, de journalistes, etc., pour discuter, débattre et faire des états généraux sur des sujets autour des médias. Voilà. On se retrouve aujourd'hui avec un gardien de prison et vous allez voir, c'est une rencontre de François Ruffin et c'est un contre-emploi ou du moins un contre-cliché, disons. Vous allez voir ça. On va passer une heure dans sa compagnie, mais d'autres compagnons de cette compagnie, juste après les messages que voici, je rappelle, le numéro du répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
C'est à 20h13 ce soir que le ferry Biladi de la compagnie Komari a quitté le port de Sète. À son bord, Latifa El-Baroudi et sa petite-fille Inès, âgée de 3 ans, expulsée de France, suite à la décision du préfet du Tarn-et-Garonne. Après avoir passé 2 semaines au centre de rétention de Cornebarieux, on les a de nouveau enfermés pour 36 heures dans une nouvelle prison. Ignace est née en France, à Montauban, 82. Combien de temps allons-nous encore supporter ça? 11 familles ont reçu des invitations à quitter le territoire en Tarn-et-Garonne, dont 23 enfants. C'était Sophie de Montauban, avec Pierre et Dominique.
Eh ben dimanche toute la journée, sur presque tous les médias, on a entendu les dernières mesures de Sarkozy sur l'aide à l'immigration en Afrique. Eh ben moi je suis outré. 2,5 millions d'euros d'aide pour l'aide à l'installation de projets de micro-entreprises pour les jeunes africains. Ça représente 4 prix de pavillon à Neuilly et ça représente le 1/5 du spectacle de Robert Hossein qui a coûté 13 millions d'euros, Ben Hur. Et du côté africain, s'il y a 100 000 petits jeunes africains qui veulent faire un projet, ça leur fait 25 euros chacun. S'il y a 1 million de jeunes africains, ça leur fait 2,5 euros chacun pour mettre en route un projet. Bon, de qui se moque-t-on? Moi, c'est dégueulasse, quoi. Et puis, je vois que comment tous les journalistes qui relatent ces mesures-là ne disent rien. Rien. Même pas du mépris qu'on a pour tous ces gens. Ah, je suis outré. C'est vraiment le silence total et c'est dégueulasse. Bon, allez, il va faire beau. À bientôt, Jackie de Jolfi. Ciao.
Alors, ce samedi matin, à la une du Figaro, les Français majoritairement d'accord avec Nicolas Sarkozy. Eh bien, j'ai honte pour vous, monsieur Nicolas Sarkozy. Vous faites du populisme, et ce, dans le sens le plus péjoratif du mot, et malheureusement, ça marche. Vous réveillez et exploitez ce qu'il y a de plus bas chez l'homme. Le repli sur soi, la méfiance de l'autre, le racisme, l'exclusion, etc. Le rôle d'un homme politique est au contraire de proposer et de défendre des idéaux dignes de ce nom. Vous nous préparez une France de bof, une France de con, une France de merde. Il n'y a vraiment pas de quoi en être fier.
Il y a quelque temps, il y a même un directeur de l'administration pénitentiaire d'un établissement qui l'avait signalé que dans son établissement, il y avait 25% qui devraient être gérés par la psychiatrie plutôt qu'en milieu carcéral. Mais maintenant, la facilité, on met tout le monde en prison.
On punit les gens par le temps, en les bloquant, en leur faisant que le temps s'arrête pour eux dans la prison. Mais à côté de ça, tout s'arrête.
Alors, bonjour chérie, j'espère que t'as le moral, hein, parce que ta dernière lettre, c'était pas vraiment ça. Hein.
Alors, la nuit, c'est le moment où les gens, les détenus, bon, ben, on essaie de faire le moins de bruit possible et puis on les surprend. Il y en a beaucoup qu'on croit qu'ils sont si durs que ça, de caractère. Et puis, bon, ben, ils pleurent la nuit. Hein. On en surprend énormément. Hein. Et il y a de moins, même les collègues, ils disent, t'as vu, celui-ci, aujourd'hui, il m'a fait une pantomime pas possible et puis là, ce soir, il pleure.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas j'y suis avec François Ruffin, les enfermés, désenfermés.
Flight number 2, arriving from Tokyo.
Alors je suis à peu près à 200 mètres de la vol d'oiseau, puis bon ça fait 25 ans qu'on habite dans le quartier.
On voit que vous habitez une petite maison qui est juste devant une grande tour, quoi, en fait.
Ouais, c'est les abords du quartier nord. Nous, on est juste à la frontière du quartier nord.
Et alors, de l'autre côté, on a vu sur la maison d'arrêt ou...
Ouais, on en voit un petit bout, mais pas plus que ça. On entend, l'été, on entend les bruits, mais c'est tout.
Je vais vous faire voir. Ah, c'est bon. Là, on est dans le grenier, en fait, qui est aménagé.
C'est l'emplacement où je fais tous mes tracts, tous les documents nécessaires pour dénoncer les conditions de travail, ainsi de suite. De mon bureau, je vois la maison d'arrêt d'Amiens, je vois le quatrième étage, et puis les cheminées, par-dessus les toits.
Une vue imprenable depuis son grenier, Luc Rodi. Une vue imprenable, presque un... Comment on pourrait appeler ça? Un mirador syndical. Oui, syndical. Il est syndicaliste. Luc Rodi, il est surveillant à la prison d'Amiens et il habite à 200 mètres de la maison d'arrêt, juste à la frontière avec le quartier populaire d'Amiens Nord. Et on va voir que c'est pas indifférent qu'il habite là. C'est pas indifférent parce que effectivement, entre les gardiens et les gardés, entre les surveillants et les surveillés, il y a souvent à peu près la même origine sociale. Même si, chômage aidant, les surveillants de prison sont de plus en plus des gens diplômés. Deux tiers d'entre eux possèdent le bac, un tiers un diplôme d'enseignement supérieur. Le personnel pénitentiaire en France, c'est 23 000 personnes. 23 000 personnes qui, au fond, ont les mains dans le cambouis de cette humiliation qu'est la prison. La prison, une humiliation pour la République. Vous vous souvenez de ce titre qui avait fait un certain bruit il y a quelques années? Eh bien, c'était le titre d'un rapport du Sénat. Les sénateurs, soudain, s'étaient réveillés, suite notamment à la publication du fameux livre de Véronique Vasseur sur l'état de santé à la prison de la santé où elle était médecin. Et on s'était quand même un peu étonné, un peu indigné de telles conditions et de ces traitements inhumains et dégradants, c'est les termes exacts utilisés pour qualifier la situation d'un certain nombre de détenus par le CPT, le Comité Européen contre la Torture. Alors on s'était beaucoup ému de tout cela, et puis l'humiliation a dû augmenter puisque la population pénale a augmenté. Punir les pauvres, pénaliser la misère, vous connaissez la chanson, 85% de la population pénitentiaire vient des milieux déshérités, selon l'OIP, selon l'Observatoire international des prisons, 55% des entrants en prison souffrent d'au moins un trouble psychiatrique, parmi d'autres. Alors vous vous dites, oh là 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 là, on écoute là-bas si j'y suis, je vois très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre la défense de l'assassin des vieilles dames et des violeurs d'enfants. Pas du tout, pas du tout. Ce qu'on observe de tous les côtés, c'est que l'utopie de la prison, l'utopie parce que c'en est une, ne marche pas ni pour la société, ni pour les victimes, ni pour les détenus. La société n'est pas plus en sécurité quand les prisons débordent. Les victimes ne sont pas plus consolées en sachant que les coupables pourrissent à petit feu ou bien deviennent des fauves humains dans ces prisons. Et puis, les détenus, c'est le plus connu, ne sont ni réhabilités ni réinsérés. Tout ça, on le sait, mais on l'oublie. Et puis on s'en fout, et puis tout d'un coup ça revient en première ligne, mais en première ligne des médias, mais en première ligne de front, il y a les gardiens de prison. Et Luc Rodi en fait partie. Les gardiens de prison sont pas très fiers de faire leur boulot, on les comprend. Je pense qu'il y a assez peu d'enfants pour dire « quand je serai grand, je voudrais être maton ». D'abord, on lui met une baffe, on lui dit « on dit pas maton, on dit gardien, on dit surveillant ». Mais c'est vrai que c'est pas très tentant quand un surveillant ou un gardien drague, il dit « moi, je travaille pour le ministère de la Justice ». Et si on lui demande des précisions, il va montrer sa carte, mais sa carte professionnelle, mais en mettant le doigt là où il est indiqué surveillant pénitentiaire. C'est un métier dont on n'est pas très fier, et c'est un métier aussi où les gens ont l'habitude de se taire. Ils sont dans un enfermement, ils sont enfermés parmi les enfermés. Donc le discours, en parler de l'intérieur avec une expérience, un vécu, ce vécu-là, eh ben c'est assez rare pour qu'on passe une heure entière avec Luc Rodi, donc que François Ruffin a rencontré à Amiens.
Tolard enterré bien à l'ombre, tourne la ronde des prisonniers au tronc, et dans le pire des tombes, ce mort, c'est mal vu de le pleurer. Et y a son homme qui reste là, qu'on laisse enfermer dans la rue, genre l'orphelin qu'on console pas, sans père est déjà perdu de vue. Si les absents ont toujours tort, du fond de la cour de leur prison, c'est la ronde des enfants des morts qui ont un père qui a pas eu raison. Contre un père qui a pas eu raison. Ça trémandonne, ça pleure tout seul, ça joue au dur, le cœur en cavale, ça crie, ça hurle, ça grogne, ça gueule, bref, ça a l'air d'un gosse normal. En attendant de rentrer en classe, on lui a appris qu'il faut jouer, faire la course au fond d'une impasse, et bien profiter de sa récré. Si les absents ont toujours tort, du fond de la cour de leur prison, c'est la ronde des enfants des morts qui ont un père qui a pas eu raison. Contre un père qui a pas eu raison. Bien autre que sa plus mauvaise note, il coince la bulle de ses zéros, il se tourne les pouces dans ses menottes, il prime un max mais se sent trop. Il fait le merde de toutes ses forces, à croire qu'il veut se faire jeter la pierre. Mais on oublie que dans le cœur de ce gosse, il y a déjà un casier judiciaire. Si les absents ont toujours tort du fond de la cour de leur prison, c'est la ronde des enfants des morts qui ont un père qui a pas eu raison. Contre un père qui a pas eu raison. Alors il reste qu'on paumé, avec un cœur qui tourne en rond, qui sait plus trop sur qui cogner, sur les autres ou l'autre, en prison. Qui est presque mort, que c'est plus rien, qui est enterré sans enterrement. C'est pas gagné d'être orphelin, avec un père encore vivant. Si les absents ont toujours tort du fond de la cour de leur prison, c'est la ronde des enfants des morts qui ont un père qui a pas eu raison.
Il y a 700 détenus à Amiens.
Oui, parfois même plus, on a connu un peu plus.
700 détenus pour combien de places?
Normalement, c'est pour 300 places.
700 détenus pour 300 places. Oui.
Et aujourd'hui, ils ont créé un nouveau centre semi-liberté dans la maison d'arrêt d'Amiens qui va faire gagner à peu près une trentaine de places. Si jamais demain, on peut aller à 750 incarcérés, on les fera. On pourra y aller.
700 détenus pour 300 places, quelles sont les conditions d'hébergement?
Ben, disons que les conditions d'hébergement, c'est assez triste, hein, parce que bon, il y a promiscuité. Moi, j'ai connu à Amiens une période où il n'y avait plus de lits. Alors, on était obligé de rajouter des matelas par terre. Mais bon, à la santé, j'ai connu plus souvent.
Donc là, on passe le long de la maison d'arrêt d'Amiens, sur un petit chemin sur le côté. Donc, il y a un mur de briques rouges. Et parfois, là, on trouve des boîtes de médicaments le long de cette...
Alors, ce passage-là, bon, nous les surveillants, bon, bien souvent, on voit des missiles arriver. Dedans, il y a des médicaments, il y a des produits stupéfiants.
C'est quoi des missiles?
Alors, des missiles, maintenant, bon, actuellement, c'est des balles pour jouer au tennis. Ils l'ouvrent en deux et ils mettent des médicaments, de la drogue dedans et ils l'envoient dans la cour de promenade. Alors bon, il y a des moments, c'est entouré de films plastiques. Il y a de l'alcool qui passe aussi par-dessus les murs. Les jeunes du quartier, bon, de tous les coins d'Amiens, bon, peuvent venir puis ravitailler à l'intérieur de la prison au niveau drogue.
Mais alors, comment ils font pour récupérer à l'intérieur de la cour?
Mais disons que, bon, c'est bien calculé quand même leur système, parce que, bon, ils savent que tel jour, à telle heure, ils sont en promenade, et puis, bon, ben, lors de la promenade, ils lancent les missiles. Et nous, bon, bien, on réussit à en récupérer quand même, parce que, bon, si jamais on laisse tout passer, ça voudrait dire que la prison, c'est une passoire.
On arrive devant, on a passé sur le côté, on arrive devant la maison d'arrêt. Il y a des gens qui attendent sous un genre d'abribus, mais l'abribus, il est tourné vers le mur plutôt que d'être tourné vers la rue.
Ouais, ça, c'est les parloirs famille. Les gens se mettent là pour venir voir un membre de leur famille qui est incarcéré. Là. C'est la bulle d'entrée, c'est le sas de sécurité. L'agent c'est lui qui gère les entrées et sorties de l'établissement.
Donc vous êtes parfois là dans la bulle d'entrée.
Ça m'arrive d'être à ce poste, on tourne en permanence. Il y a quelques années, j'ai connaissé devant la maison d'arrêt d'Amiens, je prends l'exemple sur, on voyait un yacht passer tous les semaines, ou bien tous les mois. Maintenant, on l'envoie 3-4 tous les semaines.
Vous voyez des yachts passer de la maison d'arrêt?
Disons que lorsqu'on passe, bon, je vais prendre l'exemple parce que quand on est à la porte principale, on regarde sur la voie publique et on voit les camions passer. Et donc, on voit des bateaux, des super bateaux passer. Et je dis qu'avant, bon, on en voyait un ou deux par mois. Maintenant, tous les semaines, il en passe. C'est qu'il y a des gens qui s'enrichissent quand même sur le dos de l'ouvrier.
Ses parents étaient ouvriers. Les enfants de Luc Rodi, gardien de prison, syndiqués à la CGT, ses parents étaient des ouvriers. Ils travaillaient à Saint-Frère, c'est une grande boîte de textile à Amiens. Et puis textile, on sait ce que c'est devenu, plus de textile. Et voilà, et comme ça, il est devenu gardien de prison, d'abord à la Santé, à Paris, et puis il est revenu sur Amiens. Il a 45, 46 ans, il connaît parfaitement le métier, parfaitement la vie de l'intérieur. Il ne désespère pas de pouvoir faire quelque chose en contact permanent qu'il est avec ces hommes qui sont enfermés dans cette prison d'Amiens. Et les bateaux passent. Et qu'est-ce que c'est cette chanson qui disait que quand je vois passer des bateaux, j'ai envie de me foutre à l'eau? Il y a une hantise. On avait déjà entendu ça de la bouche de gardiens et de surveillants. C'est décrocher un pendu. décrocher un pendu. C'est-à-dire, bah oui, vous avez compris, ça arrive. Il y a une quantité croissante de suicides en prison, surtout chez les jeunes et surtout au début. On en parle toujours de loin, de la prison, en principe, avec des grands principes, avec... ou bien on n'en parle pas du tout, ce qu'on essaye de faire le plus souvent, ce qu'on réussit très bien à faire le plus souvent. Ces gens-là sont aux premières lignes, et ça vaut le coup de les écouter.
Alors pour ce qui est de la réinsertion, par exemple. Alors la réinsertion, bon, moi en tant que surveillant, je crois pas à cette réinsertion, parce que bon, pour parler de réinsertion, il faut avoir les moyens. Les travailleurs sociaux n'ont pas du tout les moyens, parce que bon, nous, on se plaint, mais eux, ils sont encore plus à plaindre. Je vois à la maison d'arrêt d'Amiens, ils ont à peu près 200 détenus à s'occuper. Une seule personne.
C'est-à-dire un travailleur social suit 200 détenus.
À peu près 200 détenus. Alors, vous voyez, la charge de travail, en principe, il doit s'occuper de lui pour tout. Pour ses problèmes de réinsertion, c'est-à-dire le suivi, pour lui chercher du travail, pour lui faire son dossier de conditionnel et tout. Mais bon, ils ont une charge de travail immense, hein, les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux,
on va aller boire un verre. Vas-y, après vous. Donc on rentre, c'est le disque bleu, ça s'appelle, c'est pas loin de la maison d'arrêt. Merci. On va se mettre au fond plutôt.
Bonjour.
Un café.
Ouais, un café. Alors le disque bleu, ici qu'on est, il livre toute la presse à la maison d'arrêt. C'est eux qui livrent tous les journaux que la population pénale demande, c'est eux qui nous livrent.
Merci beaucoup, madame.
Même le tabac, il livre aussi.
Et donc sur la réinsertion, les détenus, quand ils sortent, la plupart, ils sortent comment?
Bon, on les voit, ils commencent, bon, ceux, il y en a certains, c'est la famille qui vient les chercher, mais bon, on les voit certains qui errent pendant un quart d'heure à une demi-heure pour savoir de quel côté ils s'en vont, parce qu'ils sont complètement déboussolés. Il n'y a personne qui les attend à l'extérieur. Et bien souvent, bon, ils nous disent, chef, on va bientôt, hein, parce qu'ils disent, nous, on n'a pas rien, on ne peut pas retourner chez nous parce que nos parents nous ont mis dehors. Et puis bon, ben ils ont, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'accompagnement, et donc systématiquement, on le sait qu'ils vont, on va les revoir peu de temps après.
Hein. Donc ils considèrent ça presque comme leur deuxième maison.
Disons qu'il y en a certains, c'est leur seule maison. Et puis bon, en plus, ils sont connus par tous les surveillants, donc c'est leur milieu. Malheureusement, que ça ne devrait pas être, mais
c'est vous qui avez donné de l'affection presque.
Mais disons qu'on est en leur écoute, on les connaît. Comment ça va?
Bien.
Ah oui,
bon. Vous connaissez?
Ah oui, mais très bien même. Bah oui, on a déjà discuté ensemble. Bon, moi, surveillant, à l'extérieur, vous voyez, il me serre la main. On se serre la main, il n'y a pas de problème. Il se dit bonjour.
C'est un ancien détenu?
C'est un ancien détenu. Mais bon, dès l'instant que le surveillant fait son travail correctement, il respecte la personne le respecte, on n'a aucun problème à l'extérieur.
Tout le monde le connaît dans le quartier. Tout le monde lui dit bonjour au marché et tout. On sait tous qu'il habite derrière et tout. Là, j'avais le problème. Voilà.
Alors, donc toi, t'es sorti de prison il y a combien de temps maintenant?
Là, il y a... ça fait... un an et demi.
Et quand t'es sorti de prison, t'es sorti avec quoi? On t'a fait des propositions
J'ai eu que... Déjà, la première... J'y suis allé il y a 6 ans en prison. J'y étais, je suis sorti, je me suis dit, bon, je vais me réinsérer dans la société, être courageux à aller travailler. Je suis parti travailler. Au moment où j'ai travaillé, les deux premières années, ça allait tranquillement, bien et tout. Au bout de 2 ans et demi, il y a le fixe qui commence, toutes les anciennes dettes et tout. On dit la réinsertion commence par, au moins, ce ne serait pas, je ne demande pas à effacer les dettes, mais les échelonner.
Les dettes, c'est-à-dire
les amendes, les frais, tout ce qui est amende et tout ce qu'il y a eu derrière, on les a toujours.
C'est-à-dire que 2 ans après cette sortie de prison, il y a les dettes...
Dès qu'on commence à travailler... Ils viennent juste à ce moment-là, ils viennent pas avant. Tant qu'on travaille pas, on est insolvable, pour eux ça les intéresse pas. Mais dès qu'on travaille, et c'est justement c'est au début où la personne comment travaille, où elle a besoin d'avoir du courage, d'avoir un minimum pour pouvoir s'acheter, se faire plaisir et avoir le courage de continuer, que là on lui tombe dessus. Au lieu d'avoir 6000 balles par mois, vous vous retrouvez avec 2000 balles par mois, des enfants, un loyer, des frais à payer, un jour ou l'autre, soit vous recommencez parce que.
Il te prenait combien tous les mois?
Quasiment 3000 balles tous les mois. Donc.
Sur un revenu, tu faisais quoi? T'étais ouvrier? T'étais.
7000 balles. J'étais ouvrier, je gagnais à peu près 7000 balles. Et donc, des gens qui ont toujours vécu dans un système un peu marginal, dès que ça va pas mal aller, on va aller rechercher dans le marginal.
C'est-à-dire qu'en clair, quand t'arrives plus à.
Il va falloir que je les récupère pour pouvoir faire vivre correctement ma famille décemment. Donc je vais aller faire du business, n'importe quelle connerie.
Et du trafic de shit.
Tout le monde dans la merde, je me mets moi dans la merde, je mets ma famille dans la merde parce que je me retrouve en prison. Hein. Et voilà, et quand on va voir les huissiers, tout ça, s'expliquer pour eux, non, c'est la loi, il faut payer, point final, l'histoire est terminée. Voilà, de temps en temps, on peut en tomber sur un qui est compréhensif, qui va échelonner les dettes. Mais même en les échelonnant, on doit toujours les payer, et voilà, c'est ce que je reproche au système, c'est que remet les gens, mais remettons-les sur le bon rail. Si on regarde dans les prisons, depuis l'âge de 17-18 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans, les surveillants revoient quasiment les mêmes. C'est un cercle.
C'est vrai, ça, vous voyez régulièrement les mêmes?
Mais disons que maintenant, oui, parce que la population pénale, bon, on voit que ça tourne tout le temps, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent à un certain moment. Et bien souvent, on leur demande pourquoi. Mais c'est vrai que, comme il dit, bon, si jamais les douanes viennent leur chercher l'argent au bout d'un certain temps, c'est pas normal non plus. Il faut leur laisser le temps de se réinsérer.
Les douanes, pourquoi les douanes?
Mais parce que les douanes, c'est pour les amendes des produits stupéfiants. Parce que bon, les amendes, il faut les payer. Mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à les payer, mais il faut des arrangements. Les gens qui ont des petits revenus, comme il dit, bon, ben c'est vrai que je pense que on devra attendre le temps que la personne s'installe, qu'elle soit bien installée, et lui dire d'échelonner un peu, avoir des arrangements. Pas dire, bon, ben tiens, on arrive, on prend 3000 francs tout de suite. Parce que c'est vrai que 3000 francs sur un salaire de 7000 francs, la personne ne peut pas vivre. Hein. C'est impossible avec des enfants, une famille, et on peut comprendre que... Nous, c'est pour ça que bien souvent... On les retrouve en prison parce que, bon, comme il dit, si jamais il nous manque de l'argent, ben, il faut trouver l'argent. Bon, ben, ils font des bêtises. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, ils perdent tout. Ils perdent leur travail. Ils remontent en prison. Et puis, c'est reparti pour la galère. Et nous, bon, en tant que surveillants, ça fait des années, ça fait 25 ans, mais on voit que ça comme ça. Ça fait que ça.
Et alors, quand à peine c'est terminé?
Je me suis retrouvé tout seul. Regardez, on m'a dit, j'avais un, comment, une mise à l'épreuve, là. Je l'ai eu, je l'ai reçu au bout de 2 ans, 3 mois avant qu'elle se termine. C'est normal.
C'est-à-dire, on met en place une mesure alternative à la détention qui consiste à dire, bon, bah, on va vous garder dehors, mais vous êtes suivi par un éducateur, on va mettre des choses en place pour vous. Et il a fallu que tu attendes 2 ans pour commencer à voir l'éducateur.
Au bout de un an et demi, j'étais convoqué par le juge. De là, il m'a dit que je vais être vu par un éducateur. Il a fallu encore 7-8 mois avant que l'éducateur, je le voie. Donc il y a vraiment eu un problème. On punit les gens par le temps, en les bloquant, en leur faisant que le temps s'arrête pour eux dans la prison. Mais à côté de ça, tout s'arrête.
Quand ils sortent dehors, bon, bah, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont aucun avenir devant eux. Pourquoi? Parce que le temps qu'ils ont fait la prison, personne n'a pu les aider. Donc le temps s'est arrêté.
Article D189 du Code de procédure pénale. Assurer le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prendre toutes les mesures destinées à faciliter leur intégration dans la société.
Une personne qui n'a pas d'argent en prison, c'est la chose la plus horrible. La plus horrible. Le gars, il a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un type. Il lui dit, le type va lui dire, bon, moi je te prête des sous. Je te cantine ce que tu veux, une paire de baskets, ceci, cela. Mais tu me dois tel service. Tu me portes mon téléphone. Tu me portes ceci. Tu me fais ceci, cela. Et le gars, il va le faire.
Porter le téléphone, porter ceci, cela.
Il va prendre des risques. Il démerde, il le cache comme il veut. Il prend un portable, il le cache comme il veut. Lui, quand l'autre, il veut téléphoner, il va l'appeler par yo-yo, il va récupérer son portable.
Par yo-yo, c'est quoi yo-yo?
Par la fenêtre.
Le yo-yo, il est fabriqué avec une ficelle qui est faite avec soit du drap ou une couverture ou bien du fil. Et ils mettent un gant de toilette au bout, une chaussette, et puis ça sert de yo-yo. Alors ça sert à passer le tout. Alors c'est-à-dire que...
On passe cette chaussette à partir du fil, on la balance et on la passe d'une fenêtre à l'autre.
Oui, on balance et puis on passe d'une fenêtre à l'autre. Le système, comme il disait, du porteur, bon, moi je l'ai constaté encore il n'y a pas longtemps, il y avait un détenu qui a fait le transporteur pour un portable. Et puis bon, comme il n'a pas voulu dénoncer celui qu'il avait donné, bon, ben, il a pris 45 jours de mitard.
Quand la drogue est lancée par-dessus le mur, à partir des missiles, dans des balles de tennis ou des choses comme ça.
C'est celui à qui ça appartient qui va le prendre.
C'est pas celui à qui ça appartient.
Ah non, jamais. Hein. Il lui a trouvé quelqu'un, il va lui dire, tiens, je te donne un morceau, et hop, c'est toi qui le portes, c'est toi qui prends les risques. Et en cas de problème, moi, je suis lavé de tout soupçon. Et le pauvre gars que le système n'a pas voulu aider, bah, lui, il se lance là-dedans parce qu'il faut qu'il vive. Il faut qu'il ait des cigarettes, il faut qu'il mange, il faut qu'il ait de la télé, donc il faut qu'il se démerde. Et donc, c'est comme partout, les gens en profitent. Il y en a qui ont les moyens, ils vont en profiter pour tout. Pour faire agresser un gars, pour n'importe quoi. Bah, si je veux une arme, je l'aurai. Je l'aurai. C'est trop facile. Déjà, quand je vois la prison la mienne, je me demande comment il n'y a déjà pas eu... C'est bizarre qu'il n'y ait jamais eu les surveillants qui se sont fait braquer. Ils ont de la chance.
Et nous, les surveillants, bon, actuellement, c'est ce qu'on craint le plus. Bon, les stupéfiants et tout, bon, on craint.
Mais en même temps, est-ce que les stupéfiants, c'est pas un peu de l'huile dans les rouages? Les gens prennent des stupéfiants.
Si, parce que bon, de toute façon, ça passera toujours. Et puis, on sait, c'est un peu la tranquillité. Parce que le jour qu'il y aura, ça sera le point zéro, qu'il n'y aura vraiment plus rien qui traînera. Bon, ça sera, je pense que ça sera une bombe pour, dans l'établissement. Mais bon, ça, c'est pas près d'arriver parce que bon, on en trouve de la drogue. Hein. De toute façon, le trois quarts du temps, même si jamais on les surveille, parce que bon, en promenade, ils sont surveillés, on n'arrive jamais à prendre en flagrant délit la personne par elle-même.
On envoie une dizaine de personnes, on se met tous autour du truc et il y en a un qui va le prendre. Celui qu'on compensera le moins qui sera contrôlé. Et ça fait qu'après tout le monde se disperse, on sait pas où il est le truc, il va pas. Je peux même le prendre, le montrer devant le surveillant comme ça, la caméra, et à la fin je vais monter, j'aurai rien sur moi. C'est tout. C'est le jeu du chat à la souris.
Vous êtes combien à surveiller la cour dans ce cas-là?
On est tout seul.
Il y en a une personne pour surveiller la cour.
On est une seule personne, mais on est quand même des très bons observateurs. Ouais. On réussit à en prendre toujours un dans le lot quand même, qui est pas assez discret, puis que bon, qui se fait piéger.
Il y en a qui disent, on va pas aimer quelqu'un. On va s'arranger pour qu'il aille chercher le missile. Il y en a qui vont le dénoncer pour qu'il se fasse arrêter et que les autres passent. Parce qu'on l'aime pas, c'est tout. Parce qu'on sait qu'il a déjà dénoncé ou ceci. Il y a aussi des petites vengeances comme ça. Tout est possible. Un Parisien qui s'appelait Riyad, qui foutait tout le temps la merde, qui insultait tout le temps tous les surveillants. Et avec moi, quand moi je suis arrivé, même j'étais mal, je lui avais vomi dessus. Je me rappelle, j'étais dans sa cellule, je lui avais vomi dessus parce que j'étais pas malade et tout. Et lui, un jour, il a insulté tout le temps les surveillants. Hein, et tout le monde, les surveillants ne l'aimaient pas. Et il y a eu un surveillant qui a été plus malin que les autres, il a pu courir le bruit à d'autres détenus de Beauvais ou de Creil, comme quoi il les avait dénoncés. Ça fait qu'il s'est retrouvé en promenade, ils lui sont tombés à 15 dessus, le surveillant était à la rotonde, il avait ouvert la rotonde et il regardait comme ça. Après le directeur il est venu, il s'est mis à regarder pendant 5-10 minutes, et après il a un peu envoyé de brancard le chercher parce qu'il était à out.
Non, les rumeurs c'est ce qui fait le plus mal dans la prison, et la rumeur ça va très vite.
Personne n'est crédible, et qu'elle lance une rumeur... L'autre, elle va mourir. Elle va mourir. Et parce qu'après, en plus, ça suit de cellule en cellule. Puisque on est plus ou moins tous amis. Dans la même... Quand on est dans un étage, on est souvent des amis. Ça veut dire que si moi j'ai un problème avec le surveillant, il a un problème qu'avec. Pas seulement qu'avec moi. Le surveillant a un problème avec tout mon étage. Ça va vite. Ça fait qu'après, on lui fait une vie d'enfer. Et il y en a qui.
Comment vous faites pour lui faire une vie d'enfer?
Il faut savoir que les yeux, les meilleurs yeux du chef d'établissement, c'est la population pénale. Voilà, parce qu'il y en a certains que, bon, ils envoient des courriers à la direction parce que c'est des courriers qui sont fermés et nous, on peut pas lire. Et puis, il y en a certains, bon, qui vont raconter n'importe quoi. Et puis, bon, après, qu'est-ce qui se passe? La direction, ah, le surveillant, ah, il fait ça. Alors que ça peut être faux.
C'est faux, il y en a quatre.
Bon, la direction.
Nous, on va se mettre à quatre. Moi, je me dis, si j'envoie un courrier tout seul, on croira jamais. Mais si, moi qui suis dans cette cellule-là, j'envoie un courrier, lui qui est là-bas, on fait un système éloigner les cellules. Quatre cellules qui ne se communiquent pas entre elles, qui envoient un courrier disant à peu près la même chose.
Qui dit quoi? Il peut dire quoi le courrier par exemple?
Oh, on l'a vu, il s'endormait. Oh, t'as vu, l'autre il s'endormait en lisant le courrier, ou voilà, il ne fait pas son travail. Des conneries comme ça, n'importe quelle connerie. Ça fait que le chef d'établissement, lui, il lit ça. Un, ça va. Deux, trois, quatre. Et ça se répète. Arrive un moment, on ne le voit plus dans l'étage.
Que ça existe encore, que l'on construit des prisons, et qu'on a toujours dans la tête, et très bien, et dans sa petite chaussette, madame n'aime pas qu'on joue de la trompette, alors on construit des prisons, et il faut bien punir les assassins, comme ça on n'a pas tout perdu, et après, on jouera au football, on laissera crever les assassins. Et on mangera la part du défunt. Et enfin, on se mérite les prisons. Et mon petit gars, un jour sera promoteur. Et c'est pas comme cette bande de tueurs. Enfin, pour les musiciens, et dans la go, le roi des prolos. Un enfant, et pour les parisiens. Et mon petit gars, et la politicien. Un enfant, parce qu'il pour les enfants. Et pour un bon, attendre le métro. Et pour mon chien, et pour les écrivains, faut fermer tous ces assassins. un enfant assis pour les crétins, un cachot pour les intellos, un enfant pour les Africains, un centrale pour les pays astrales, et tout ça, en tout ces assassins, mon petit gars, elle passe par plaisir.
Dialogue inattendu entre Luc Rodi, gardien de prison, et on n'est pas loin de la prison, Damien, une des 20 prisons les plus surchargées, les plus peuplées, surpeuplées de France. Et dans ce bistrot qui s'appelle le Disque Bleu, ben voilà, rencontre entre ce gardien de prison et les détenus, d'anciens détenus ou de futurs détenus. 70% des détenus de cette prison, comme de beaucoup de prisons en France, sont des récidivistes. Et je le rappelle, 85% de la population carcérale en France vient des quartiers déshérités et des milieux déshérités. C'est la prison des pauvres, la peine des pauvres et de pauvres peines que mènent ces gens, même si on éprouve une fascination toujours pour ce milieu du dedans, d'où qui sommes dehors. Ce monde, ces mœurs, ça a fasciné beaucoup, beaucoup de monde. Il y a quelque chose qui nous attire toujours, toujours. Mais il faudrait que ça cesse, tout simplement, cet intérêt assez morbide pour des gens qui, en somme, souffrent de façon inutile. Bien sûr qu'il faut des sanctions. Si on veut des lois, eh ben il faut les appliquer. Et si ces lois comportent des sanctions, il faut les accepter. Mais faut-il encore savoir quelles sanctions ? Par exemple, en Espagne, savez-vous qu'en Espagne, eh bien, on a limité la durée maximale d'incarcération à 15 ans. À 15 ans. En France, c'est, je crois que c'est 30 ans encore. Je me souviens très bien, et vous vous en souvenez, les plus âgés d'entre vous, les aînés se souviennent des luttes sur la peine de mort, les abolitionnistes et les autres. L'abolition de la peine de mort n'a en aucun cas augmenté le nombre de crimes en France. La prison est un jour, je pense que nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, parleront de nous en disant c'était le temps où il y avait encore des prisons. Je pense qu'un jour, on ouvrira, ou plutôt on fermera les prisons. Je parlais tout à l'heure de ce rapport parlementaire il y a quelques années, la prison, une humiliation pour la République, ça avait fait grand bruit. Eh bien, c'est l'été dernier, les parlementaires, sénateurs et députés qui avaient signé participé à ce rapport sont retournés 4 ans après constater ce qui se passait dans les prisons. Eh bien, la dégradation continue et les peines alternatives et l'aide à la réinsertion sont au point mort. On peut avoir des peines alternatives, on a imaginé d'autres moyens moins inhumains que la prison. On en parlera d'ailleurs, on a des reportages en cours sur ce thème-là, mais en tout cas, ce à quoi on a complètement renoncé, c'est la réinsertion et c'est la réhabilitation. On a choisi l'industrie de l'incarcération, alors qu'on pourrait très très bien choisir l'industrie de la réinsertion. Il y a quelque chose de profondément idéologique dans tout cela, et on sait quels sont les choix du gouvernement actuel en la matière. On est toujours dans ce bistrot qui s'appelle le Disque Bleu à Amiens, et ce Disque Bleu ressemble un peu à ce cercle vicieux qui est dedans, dehors, dedans, dehors.
1, 2, 3. Bonjour,
ça va ?
Bonjour.
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 Ouais, je veux bien.
Vous connaissez alors ?
Ça, j'ai fait 12 ans de prison en tout. Je me connais depuis déjà 12 ans. Ouais. Ouais. Deux années pour divers choses, j'ai fait plusieurs trucs. Mais la justice m'a jamais aidé. En sortant de prison, à chaque fois, ils m'ont laissé tomber. J'allais au comité de probation, c'est toujours la même chose. On ne trouvait pas de travail pour moi. On n'a jamais essayé de me réinsérer. C'est pour ça que je suis tombé autant. C'est pour ça que j'ai pris autant de 12 années. J'ai eu une trentaine de condamnations. J'ai été condamné 30 fois. Et sur 30 condamnations, jamais on a fait quelque chose pour moi. Le seul truc qu'on a fait, c'est m'envoyer à Pinel, c'est tout.
C'est-à-dire que quand vous sortiez de prison, derrière, il n'y avait pas de...
Il n'y avait rien, rien du tout, rien. Rien. Personne autour de moi, personne pour m'encadrer, personne. J'avais aucun diplôme, et avec mon CV, mes CV, tout ça que j'ai rapporté, tout ça, jamais quelqu'un est venu me tendre la main, jamais, jamais. Et la peine que j'ai eue, c'était toujours des grosses peines. Des grosses peines. On mettait des claques.
On a un exemple flagrant de réinsertion. Dès qu'ils sortent de prison, bon, ben, il n'y a rien. Et nous, les surveillants, quand on nous parle de réinsertion, ils le savent très bien, on ne va pas mentir, il n'y en a pas. À tout point de vue, bon, il y en a quelques-uns qui s'en sont sortis d'eux-mêmes, mais c'est tout. Même, bon, pendant un certain temps, bon, mais les travailleurs sociaux, ils avaient même dénoncé les problèmes, parce que quand il y avait quelqu'un qui était indigent, même qui voulait sortir, il n'y avait même plus de tickets de bus à donner, même un peu d'argent, on ne pouvait même plus rien leur donner parce qu'il n'y en avait pas.
Ahmed, toi, quand tu sortais de prison, tu sortais avec quoi?
Avec rien.
Tu avais des problèmes de toxicomanie à un moment?
Pendant une quinzaine d'années, j'en ai eu.
Et alors, par exemple, au niveau des soins en matière de toxicomanie, il y avait des soins dans la prison?
Ouais, mais le docteur est difficile. Hein. C'est pas un docteur psychiatre en même temps. Il n'est pas là pour vous aider, essayer de vous expliquer. Il est là pour vous jeter vos médicaments dans la figure et point final, on s'arrête là. Avec ses Subutex, avec ses Valium. Moi, je prenais juste du Subutex, je prenais pas de Valium. Parce que j'essayais déjà d'arrêter de boire. Je prenais du Subutex, là-bas en prison.
En fait, on file les médicaments, mais derrière, il n'y a pas de parole autour de tes problèmes.
Rien du tout. On est là, on vous fait asseoir dans une chaise. On vient vous poser le médicament dans les mains. Vous le prenez, après vous partez.
Alors que toi, t'avais besoin de discuter.
J'avais besoin de discuter à fond mes problèmes. Bah ouais. Bah là, je vois un psychiatre, moi. Alors, tous les une fois par mois, je vois un psychiatre. J'ai besoin de parler. J'avais besoin de parler et lui, il ne nous écoutait pas. En plus, c'est même pas lui qui donnait les médicaments, c'était les femmes.
Les infirmières,
ouais, c'était même pas lui. Alors, pour vous dire.
Ouais. Donc, c'était presque du sale service si vous demandiez tant de Subutex.
Ouais.
Donc, ça facilitait le trafic
Ben, ça pouvait faciliter le trafic, quoi.
Ça facilite les suicidaires. Il y a des gens qui vont, qui demandent des cachets, qui les entretiennent, qui les stockent. Ils vont même demander à d'autres détenus d'en prendre pour eux. Puis après, hop, ils les avalent tout d'un coup.
Moi, c'est depuis que je suis mineur, depuis l'âge de 15 ans, je vais en prison. La première fois que j'y étais, j'avais 15 ans. Vous croyez que le juge d'application des peines a fait quelque chose pour moi? Rien. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, en prison, j'ai pas arrêté. Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai arrêté. Après, je me suis marié en prison. Ça va faire 3 ans que j'ai arrêté mes conneries parce que j'ai eu un enfant. Je l'ai eu en étant dehors, je l'ai eu. Mais je suis tombé en prison entre deux. Alors ma femme venait me voir enceinte en prison. Alors, le jour de la naissance de ma fille, ma petite fille, ils m'ont pas donné de permission pour aller la voir. Alors ça, je trouve ça dégueulasse. Pas de permission pour aller voir ma petite fille. Et j'étais à 3 mois de la libération. Faut pas déconner, de 15 ans jusqu'à 30 ans. J'ai fait des conneries. 15 ans, juste l'application des peines, rien. 17 ans, rien. Rien, ils ont rien foutu pour moi, rien.
Et qu'est-ce que tu penses qu'ils auraient dû faire pour toi?
Ben, m'aider à mettre, je sais pas, m'aider à faire un stage, m'aider à quelque chose, à des démarches, divers trucs, je sais pas, m'aider, être là. Ils voyaient bien que quelque chose n'allait pas envers moi, même à l'école, tout ça. Je foutais la merde, ça allait pas, je faisais le bordel. J'étais à l'école jusqu'en 5e, jusqu'en 4e. J'ai pas été loin à l'école. Me faire envoyer un psychiatre pour voir ce que j'avais comme problème. J'avais un tas de problèmes, problèmes familiaux. Et ça, je ne peux pas en parler, ça.
Tu as eu de vue des éducateurs ou pas à l'intérieur de la maison d'arrêt?
Une fois, un éducateur est venu.
Tu as vu des éducateurs? Tu as vu un éducateur une fois en 12 ans de prison?
Une fois, j'ai vu un éducateur. Et il était bien.
Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, psychologues sont observés en permanence.
T'as pas une dentition qui est en très bon état?
J'ai été au dentiste en prison. Elles ont toutes sauté. Ça a été fait, mais à la va-vite. On m'a dit que j'aurais dû attendre d'être dehors pour les refaire complètement. Moi, je ne vais pas au dentiste parce que lui, il aurait pu faire du meilleur boulot. Mais il y a 1000 détenus derrière et lui, il a peu de temps. Il peut pas, déjà, pour prendre un rendez-vous, on met 2-3 mois.
Mais t'as dû avoir des rages de dents avec...
Non, je me suis retrouvé avec des... Il a fallu que j'ai vraiment des rages terribles de dents pour qu'ils me prennent. Parce que sinon, il fallait que j'attende vraiment longtemps.
Et voilà le problème que nous, surveillants, on rencontre. Bien souvent, il y a des accrochages avec la population pénale. Parce que le détenu qui a mal aux dents, bon, qui c'est l'interlocuteur qui est en face de lui? C'est le surveillant. Mais on est obligé de menacer pratiquement l'infirmerie pour avoir des médicaments ou voir le dentiste.
Il m'arrive une rage de dents. Je demande au surveillant gentiment pour aller au dentiste. Ils me connaissent, ils vont voir le docteur. Jamais je m'énerve, ni rien et tout. Il est parti et tout. Une fois, deux fois, dans la même journée, j'avais vraiment très mal. Au bout de la troisième fois, j'appelle un surveillant. Ça, en 3 heures, je l'ai appelé 3 fois. Et il me dit qu'on doit m'appeler pour aller voir le dentiste ou et tout. Et il vient toujours pas. Il a fallu que je menace de dire quasiment le premier qui rentre dans ma cellule, je le massacre, pour qu'au bout d'une demi-heure, le dentiste se déplace et m'appelle. Même quelqu'un de calme est obligé de menacer. Et puis, je menace quelqu'un qui n'a rien à voir avec... Je le sais très bien, quelque part au fond de moi, qu'il n'a rien à voir avec le problème. Mais je sais qu'en le menaçant lui, il va la répercuter au directeur.
C'est un jeu, c'est un cercle infernal. C'est pour ça que bon, il y a des moments quand le détenu dit oui, chef, j'en ai marre. Ça fait 3-4 fois, je l'ai dit au surveillant. Et puis, il n'y a toujours rien. Mais nous, pourtant, on le dénonce. On le dit. On appelle l'infirmerie et tout. Mais au bout du compte, il n'y a rien. Ou bien si, le service médical va dire oui, mais il faut qu'il fasse un mot, il faut qu'il explique. Mais le détenu, bon, ça fait déjà X temps qu'il se plaint. Le temps de refaire un mot et puis que ça arrive au service médical, ben, il y a encore 2-3 jours de passé.
Un détenu va quand même se calmer, va pas trop en vouloir aux surveillants parce qu'on se connaît plus ou moins. On a une...
Alors, moi, je vais vous expliquer une chose. Il y a quelques temps, il y a eu, bon, c'était à peu près la dernière mutinerie, mais il y a déjà quelques années.
Ils avaient pris la maison d'arrêt d'assaut, enfin, qu'est-ce qu'ils...
Ouais, dans la cour de promenade. Ils étaient dans la cour de promenade, ils voulaient plus remonter. Alors donc, les CRS sont, la police, les CRS sont venus, intervenus et tout. Puis après, 2 jours après, le directeur a reçu un groupe de détenus. Et voilà la demande. Ils voulaient plus de frites. Bon, je dis, mais c'est pas possible. Si jamais on fait un mouvement pour avoir des frites, c'est pas possible. On peut pas faire un mouvement. Non, on fait un mouvement parce qu'on veut améliorer ses conditions d'hygiène. On fait, mais pas pour des frites, uniquement pour manger. Non. Alors le directeur a dit oui tout de suite. Ils ont eu des frites. Mais maintenant, tout en sachant que maintenant tout est pesé et tout, bon bénéfice, ils ont eu des frites comme ils voulaient pendant un mois ou deux. Et puis c'est tout. Et après c'est reparti. Mais le mouvement était cassé.
Voilà, monsieur. Alors, si on est à 700 personnes aujourd'hui pour une prison qui est de 300 personnes, la solution c'est de construire des nouvelles prisons alors.
Non. Il y a des peines de substitution pour certaines choses. C'est-à-dire, bon, ben, il faut développer les bracelets électroniques, les tiges, tout ça, parce que c'est la prison par elle-même, c'est pas une solution. Hein. On aura beau construire des millions de quelques prisons de plus, ça ne changera rien. Hein. On aura beau dire oui, ben, tiens, on va construire une prison dans chaque ville, ça n'arrangera rien, même si on les remplit. Mais les gens à un moment donné vont sortir. Et qu'est-ce que c'est? Ça va être des fauves. Bon, à un moment donné, il faut se poser la question, mais pourquoi il y a autant de gens en prison quand même? Comme Loss, c'est pareil, à Lille, on parle de fermer, au départ on disait on va fermer la maison d'arrêt de Loss pour construire ce quenin à côté, mais ce quenin est ouvert et la maison d'arrêt de Loss restera ouverte.
Donc finalement, on rajoute des nouvelles prisons à côté?
On dit qu'on ferme les vieilles prisons, et en réalité c'est faux. Les vieilles prisons existeront toujours, on va les rénover, on va donner un coup de peinture à droite, à gauche, mais les vieilles prisons existeront toujours. On a un manque de place trop important en France pour dire fermer ces vieilles prisons. Puisque bon, on a battu quand même les records européens en France quand même cette année. Hein. Vous voyez, bon, c'est énorme quand même. La France qui bat tous les autres pays européens.
Et ça, vous n'êtes pas très fier de ce record alors?
Non, moi je trouve qu'on n'a pas à être fier parce qu'on aurait dû faire le nécessaire avant d'en arriver à ce record. Parce que bon, dire le record de plus d'incarcérés sur l'Europe, c'est la France. Bon,
vous voudriez pas une médaille pour ce record?
Non. Cette médaille-là, nous, en tant que surveillants, on n'en veut pas. Non, je trouve que si jamais la société en aval aurait fait le nécessaire, bon, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Un noyau! Troisième, s'il vous plaît, merci!
C'est une nouvelle diffusion du reportage de François Ruffin pour l'émission Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. À lire, Quartier Nord, un livre de François Ruffin édité aux éditions Fayard. Attention, notez bien que les états généraux pour une information et des médias pluralistes se tiendront ce samedi 30 septembre à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Toutes les informations sont sur le site www.etats-generaux-media.org. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et réécouter l'émission Là-bas si j'y suis sur le site de Radio France. À la technique aujourd'hui, Michel Bertin et Alain Gadon. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyan Guyen, assistée de Pascal Pascariello et le chef du répondeur est Christophe Hormer. Vous pouvez laisser vos messages au 01 56 40 37 37.